Le 13 novembre dernier, l'atelier d'histoire critique recevait le journaliste Olivier Siran, auteur de l'ouvrage « Sur les dents, ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale », paru en 2020 aux éditions La Découverte. En introduction de son propos, Olivier Siran revient sur le cas de l'ex-otage Sophie Petronin, au cœur d'une déferlante médiatique depuis le début du mois de novembre 2021, pour avoir fait le choix de retourner vivre au Mali, où elle a été retenue par des djihadistes entre 2016 et 2020. Parmi les arguments mobilisés pour railler le choix de Sophie Petronin de retourner vivre dans un pays où elle a pourtant passé 20 années de sa vie, on entendra notamment dans l'émission « On est en direct » du samedi 6 novembre, la travailleuse humanitaire être qualifiée de « mamie sans dents ». Bonne écoute.
Elle a été la cible d'une campagne assez violente de la part d'un certain nombre d'hommes politiques et d'éditorialistes, etc., qui lui reprochaient grosso modo de ne pas être plus attachée à ce magnifique pays qu'est la France et d'avoir voulu rentrer dans le pays où en fait elle a vécu de longues années. Et dans le cadre de ces attaques, elle a été également ciblée pour sa dentition. Parce que Sophie Petronin n'a plus de dents et donc ça a été un prétexte pour comique de cette émission, émission du samedi soir sur France 2, de la railler, de la traîner un peu dans la boue. L'expression utilisée, c'était une mamie sans dents, ce qui a causé les rires de l'assistance autour du plateau. Alors, ça nous révèle, bien sûr, l'époque dans laquelle on vit, sur le plan politique et médiatique, mais ça nous rappelle aussi à quel point les dents restent un stigmate social extrêmement fort, un marqueur qui peut être réactivé à tout moment dès qu'entre en jeu en fait un rapport de domination d'un groupe social sur un autre, en l'occurrence s'agissant d'une personne qui avait été décrétée traître à la France. Donc voilà, on pouvait y aller pour en plus la mépriser pour ses dents. Et ce mépris, cette formule de mépris qui avait été utilisée dans cette émission, nous rappelle l'expression qui avait été prêtée à François Hollande quand il était président de la République. Vous en souvenez peut-être. Sa compagne, une ancienne compagne à lui, avait raconté qu'il utilisait le terme de « sans dents » pour parler des pauvres, pour parler d'une population qui est régulièrement trahi par les promesses, en particulier de la gauche. Donc, c'est intéressant, on pourrait comme ça retracer le fil des déclarations et des signes de mépris qui s'attachent à une santé dentaire défaillante. Et du coup, c'est intéressant de se poser la question d'où ça vient ce mépris et surtout, qu'est-ce qui permet à ce mépris de s'affirmer, de s'exprimer de manière aussi publique et aussi peu contestée. À mes yeux, ça fait directement, ça entre en résonance avec le discours qu'on nous tient régulièrement, que ce soit de la part des dentistes, effectivement, mais aussi de manière plus large des campagnes de prévention qui tendent à nous expliquer que nous sommes responsables de notre santé dentaire. Alors l'hygiène bucco-dentaire, il faut se brosser les dents, il ne faut pas consommer un certain nombre de produits, il faut avoir une alimentation saine, équilibrée, etc. Et il est vrai que si nous faisons tout ça, si nous nous brossons les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes, pendant le temps réglementaire, si nous menons une existence vertueuse et protégée, nous aurons sans doute des dents plutôt en bonne santé. Il va de soi que cette vision des choses, à laquelle on a tous évidemment intérêt à autant qu'on peut à se conformer, est en même temps extraordinairement oublieuse des conditions sociales qui font que nous avons ou non des bonnes dents ou des dents en mauvaise santé. Ces déterminismes, ils sont de toutes sortes. Je ne vais sans doute pas vous apprendre grand-chose, mais il faut quand même les rappeler vite fait. C'est-à-dire qu'en amont de ce qui conditionne notre santé dentaire, il y a bien sûr l'alimentation, et nous savons, un grand nombre d'études le montrent, que nous ne sommes pas égaux à cet égard, puisque justement l'accès à 5 fruits et légumes par jour, la possibilité de ne pas être excessivement en but à des substances qui sont cariogènes, le sucre, etc., l'alcool, le tabac, et tout ça, tout ce qui dégrade nos dents, toutes les bonnes choses de la vie hein, qui font que nos dents s'usent à grande vitesse, la population n'est pas équitablement exposée à ces risques, hein, à ces facteurs de risque, bien entendu. Ça, c'est le premier point, si vous voulez, le plus évident, mais qui est quand même assez généralement nié. Moi, j'ai parlé, par exemple, avec une dentiste qui disait que, voilà, qui se moquait ouvertement des parents qui donnent des produits sucrés à leurs enfants, qui donnent des sucettes, etc., ou des boissons sucrées, comme si on était tous pareillement en capacité de choisir les produits qui sont propices à une bonne santé dentaire. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Il y a des violences directes dont nos dents sont les cibles. On pense par exemple aux violences policières, hein, que ce soit les coups de flashball ou de matraque dans les manifestations ou ailleurs, ou dans les quartiers où ces violences se concentrent. Bien souvent, ce sont les dents qui sont les premières cibles. Et on ne compte plus les personnes qui ont perdu des dents dans ces conditions-là. Et il faut savoir que, pareil, par exemple, la question s'est posée pour plusieurs manifestants de ces dernières années qui se sont retrouvés avec des dents détruites sous des coups de flashball. Aucune, ni la Sécu, ni même les mutuelles, ne prenaient en charge les travaux de restauration dentaire, ce qui obligeait ces personnes ou leur soutien à organiser des collectes pour qu'elles puissent se faire refaire les dents. Sophie Pétronin elle-même, quand elle est revenue de captivité, elle avait perdu 4 dents. Et il est intéressant sur ce plateau de télévision, on a préféré se moquer des dents qui lui manquaient plutôt que de se demander pourquoi elle n'avait pas pu se faire refaire les dents pendant la période durant laquelle elle était en France. Parce qu'en réalité, il est très difficile d'accéder à des soins prothétiques qui permettent de restaurer une bouche qui a été meurtrie par les accidents de la vie. Et ça, si vous voulez, c'est un peu les violences en amont hein, auxquelles on est exposé, qui montrent que les dents sont un peu au croisement de différentes formes de domination. C'est en ce sens un organe, on pourrait dire, intersectionnel, hein, puisque les personnes peuvent subir des coups, que ce soit au propre ou au figuré, du fait de leurs conditions, que ce soit de femmes, d'immigrés ou simplement de personnes pauvres. Ces violences, ensuite, se répercutent à une autre échelle, plus en aval, si vous voulez, de la problématique de la santé dentaire. C'est, bien sûr, l'accès aux soins dentaires. Mais ça, c'est un peu l'essentiel, en fait, du problème. En tout cas, la partie du problème qui concerne le plus de monde, l'accès aux soins dentaires, qui nous est toujours présenté comme universel, tout le monde a droit à des soins dentaires gratuits, c'est ce qu'on nous répète. Tout le monde peut se faire soigner les dents gratuitement. En réalité, c'est faux. D'abord, pour une première raison, c'est qu'un certain nombre de patients ont du mal à trouver un dentiste qui veut bien les soigner. C'est le cas, par exemple, des allocataires de la CMU, hein, la couverture maladie universelle. En 2015, une étude de Médecins du Monde qui a fait un testing comme ça auprès d'un certain nombre de cabinets dentaires a démontré que à peu près, je crois, 35% des cabinets dentaires refusaient de prendre en charge les patients sous couverture maladie universelle. Cette proportion s'élève à 50% dans le cas des patients qui disposent de l'AME. Et dans une ville comme Paris, la proportion monte même respectivement à 50 et 70% d'impossibilité à trouver un dentiste qui veut bien vous soigner. Ensuite, il y a à l'étage supérieur, si vous voulez, de cette pyramide, il y a tout simplement l'accès aux soins chez les dentistes en général, même si vous disposez, si vous disposez de la sécu, vous disposez d'une mutuelle. En réalité, bien souvent, c'est très compliqué. C'est compliqué pourquoi ? Parce que les soins dentaires en France sont organisés de manière assez curieuse. La santé en général, comme vous le savez, la médecine en général, elle est organisée d'un côté par une branche de médecins, de praticiens libéraux. Et puis d'autre part, vous avez un service public, un service hospitalier qui marche plus ou moins bien, plutôt moins bien que bien par les temps qui courent. Mais c'est grosso modo le modèle. Chez les dentistes, ce n'est pas comme ça. Le système de soins dentaires est basé à 80% sur les libéraux, c'est-à-dire sur des dentistes qui doivent faire entrer de l'argent pour équilibrer leurs comptes et pour, de préférence, dégager des revenus qui leur permettent de vivre en général plutôt bien. En moyenne, on considère qu'un dentiste gagne à peu près 10 000 euros par mois, ce qui est quand même plutôt un revenu correct, plus que correct. Et pour qu'un dentiste puisse amortir à la fois les frais d'investissement, qui sont très importants, s'agissant de technologies très coûteuses, il doit plus donc assurer ses revenus, ses propres revenus, il doit faire entrer de l'argent. Comment va-t-il faire entrer de l'argent ? C'est toute la difficulté, sachant que le système de soins est organisé au niveau donc des libéraux par une mise en concurrence des soins qui sont effectivement gratuits, qui sont donc remboursés par la Sécu ou par les mutuelles, et qui de ce fait-là sont plafonnés au niveau du coût. C'est-à-dire que par exemple un détartrage sera est plafonné à 40 euros et quelques. Je crois 43 euros et quelques, si ma mémoire est bonne. En fait, un dentiste, il va considérer que 43 euros, c'est rien. C'est rien, c'est d'autant moins que rien s'il fait ce détartrage correctement. Un détartrage fait correctement, ça prend au minimum une demi-heure, ou plutôt trois quarts d'heure même, si on veut le faire bien. Or, c'est très important, en fait, de faire un détartrage correctement, parce que s'il est fait expéditivement, en fait, ça va fragiliser vos dents, ça va multiplier les chances d'attraper plus tard, de développer des infections ou des caries, etc. Donc, ça paraît un geste assez anodin. Vous êtes content que le dentiste veuille bien vous faire un détartrage gratuit, donc vous ne pensez pas à mal si au bout d'un quart d'heure, le travail a été fait. Mais en réalité, le système est conçu de telle manière à ce que ces soins sont bâclés. Ces soins sont bâclés, pas seulement le détartrage, mais toute une série en fait, d'actes qui sont les actes qu'on appelle conservateurs, donc des actes qui permettent de préserver vos dents contre les agressions qu'elles subissent et donc leur permettre d'éviter plus tard des problèmes plus sérieux. Ces soins-là sont structurellement bâclés, même quand vous y avez accès, même quand vous avez la chance de vivre dans un endroit, un centre-ville, plutôt qu'une zone rurale ou certains quartiers de banlieue, où trouver un dentiste est déjà en soi très compliqué. Et à supposer que vous en trouviez un et qu'il vous soigne, vous pouvez être à peu près sûr que ces actes, ces gestes-là seront expédiés et généreront des problèmes plus tard, quelques mois plus tard, parfois quelques années plus tard. Et c'est intéressant parce que ce qui est un peu le fondement en fait de ce système, c'est l'idée du contrat. Le contrat, vous allez chez un dentiste, il vous soigne. Vous le payez ou lui est payé directement par la Sécu. Le boulot a été fait, vous rentrez chez vous et on n'en parle plus. L'idée que en fait le dentiste a une responsabilité par rapport aux conséquences d'actes qui ont été bâclés ne se pose jamais pour les dentistes. En tout cas, eux, bien souvent, ne se considère pas comme responsable, tout en vous considérant vous comme responsable pour votre hygiène bucco-dentaire, et on vous morigènera si on considère que vous avez été négligent à ce niveau-là. Alors, quand je parle des dentistes, je ne veux pas avoir l'air de jeter l'anathème sur toute une profession. Il y a un certain nombre de dentistes qui essayent de faire correctement et consciencieusement leur métier. Mais pour eux, c'est en fait très difficile. J'ai rencontré un dentiste qui se qualifie lui-même de dentiste marxiste, donc il a toute une réflexion sur sa profession. Une réflexion qui lui vaut d'être un petit peu à part, si vous voulez, par rapport à ses confrères. Et c'est assez incroyable, mais ce dentiste est vraiment en souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, il a des journées absolument délirantes. Il commence très tôt, il finit très tard. Il essaye de soigner tout le monde le mieux qu'il peut, mais du coup, il ne s'en sort pas. C'est-à-dire que réellement, à la fin du mois, il a tout juste de quoi payer le loyer de son cabinet et de quoi rembourser les différents emprunts bancaires qu'il a passés pour l'ouvrir, ce cabinet. À l'autre extrémité de cette profession, vous avez des dentistes qui gagnent extrêmement bien leur vie. Pourquoi ? Parce que précisément, soit ils refusent l'ECMU. Quand je dis soit, ça peut être le ou exclusif ou le ou et, hein, refus d'ECMU. Refus aussi des personnes handicapées, par exemple, refus des personnes âgées, parce que là aussi, ça prend du temps, c'est pas très gratifiant au niveau des revenus. Les enfants, ça pose problème, parce que les enfants, bien souvent, ils ne viennent pas pour se faire poser des prothèses, ils viennent pour des soins de base, donc ils sont mal payés. Alors certains dentistes vont se spécialiser quand même dans les soins pour enfants, mais c'est un modèle économique très particulier qui est fondé sur le nombre, et sur la rapidité des actes. Et puis, par ailleurs, voilà, le problème de fond, c'est que un dentiste, aussi consciencieux soit-il, il a besoin d'avoir un certain nombre de patients qui viennent pour des soins à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire, en fait, les soins qui ne sont pas régulés par la Sécu, qui ne sont pas plafonnés, qui ne sont pas remboursés, c'est-à-dire les soins prothétiques, les poses d'implants, de prothèses, et par conséquent, il est plus intéressant pour un dentiste d'avoir affaire à une clientèle qui a à la fois les moyens et qui a à la fois qui est déjà à un stade relativement avancé dans la détérioration de sa santé dentaire. En fait, tout ce truc de prévention dont on nous rabat les oreilles, et qui, encore une fois, est tout à fait justifié. C'est vrai qu'on a tous tout à fait intérêt à nous brosser les dents 3 fois par jour, à éviter tous les produits néfastes. Tout ce discours, en réalité, il est démenti dans les faits par la manière dont le système fonctionne, puisqu'en réalité, pour que les dentistes gagnent bien leur vie, ils ont plutôt intérêt à avoir un certain nombre de patients qui ne sont plus du tout dans le cadre d'une prévention et dans le cadre des soins conservateurs, mais qui ont besoin de soins de réfection extrêmement lourds et extrêmement coûteux. C'est là-dessus qu'ils se font leur pelote, c'est là-dessus qu'ils peuvent se payer une des résidences secondaires ou tertiaires avec des piscines à bulles, etc. Et c'est ça qui est valorisé aussi bien dans la formation que plus tard, dans la vie sociale même des dentistes qui se fréquentent souvent entre eux. C'est évidemment le dentiste qui a un certain niveau de vie, qui sont les plus... qui en quelque sorte constituent la norme à suivre. Le petit dentiste qui essaye de faire du mieux qu'il peut et qui s'angoisse et qui se considère comme responsable de ses patients, qui, lorsque un geste n'a pas été tout à fait nickel, est prêt à reprendre le patient pour corriger ce qui n'a pas été bien fait. Ces dentistes-là, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas très nombreux. En tout cas, je n'ai pas fait moi-même de sondage, mais de l'aveu de certains dentistes avec qui j'ai parlé. Voilà, donc on est là face à un faisceau d'inégalités, et à une difficulté en fait d'accéder aux technologies de pointe, hein, dont par ailleurs la dentisterie est à juste titre très fière. C'est vrai qu'on dispose aujourd'hui de tout l'outillage nécessaire pour que nous ayons tous d'excellentes dents. Si ce n'est pas le cas, voilà, c'est un peu pour les raisons que je vous ai dites. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors ce que vous pouvez faire, c'est aller faire ce qu'on appelle du tourisme dentaire. Vous pouvez aller dans les pays de l'Est, vous pouvez aller en Hongrie, en Pologne, vous pouvez aller au Maroc, vous pouvez aller en Espagne où les tarifs sont effectivement bien plus attractifs. Et donc des cliniques dentaires un peu bas de gamme ont été créées dans tous ces pays pour, d'une certaine façon, capitaliser sur les conséquences des inégalités systémiques instaurées chez nous. Et puis il y a aussi, en quelque sorte, enfin, il y a un autre versant de cette industrie des soins dentaires low cost, qui est celle des soins dentaires low cost, en quelque sorte relocalisés en France à travers les centres de soins dentaires associatifs qui pullulent maintenant un peu partout. Je suis sûr qu'il doit y en avoir un paquet à Lille. Le numéro un de ce secteur, c'est Dentego, qui a racheté énormément de centres, qui en ouvre chaque année de nouveaux. Et là, ce sont des centres où, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes quand même les bienvenus. Vous êtes quand même les bienvenus, à condition que vous y alliez pour des soins, justement, pour des soins lourds, hein, des soins de réfection, de restauration, des soins prothétiques qui vont, qui, même s'ils sont 20%, 30%, parfois même 50% moins chers que chez les libéraux, restent quand même assez coûteux. J'ai dit que c'était des centres de soins dentaires associatifs parce qu'effectivement, le législateur a prévu que ce soit des associations à but non lucratif. C'est un peu étonnant quand même, des structures de soins privées qui ne sont pas à but lucratif. En réalité, le but lucratif est bien là, sauf qu'il est camouflé par cette enseigne rassurante, hein, pour le patient, cette enseigne de soins dentaires associatifs. On se dit c'est associatif, c'est plutôt sympathique. En réalité, le législateur, en fait c'est la loi Bachelot de 2009 qui a organisé ça et qui a dérégulé ces centres de soins. Le seul garde-fou qui a été posé à la création de ces centres, c'est qu'ils soient associatifs. Mais en réalité, il y a plein de moyens pour contourner ce très maigre garde-fou, parce qu'en fait, il suffit que la personne qui crée un centre de soins dentaires crée par ailleurs un certain nombre d'entreprises qui vont commander, par exemple, des prothèses bas de gamme en Turquie ou dans d'autres pays, et puis les facturer très cher au centre de soins associatifs. Et ensuite, donc, le directeur ou le créateur du centre empochera la différence. C'est une pratique tout à fait usuelle et qu'on connaît bien, qui est pratiquée aussi par Dentego. Et donc, les conséquences, en fait, de cette loi sont assez catastrophiques, en tout cas pour un certain nombre de patients, parce que le législateur, la loi Bachelot, permet à toute personne, y compris à des personnes qui ne sont pas dentistes, qui ne connaissent strictement rien à l'art dentaire, d'ouvrir des centres de soins. Et raison pour laquelle, par exemple, Dentego a été créé par deux jeunes diplômés d'école de commerce, à peine sortis de leur école de commerce, qui leur avait coûté dans les 20 000 euros de frais de scolarité, à peine sortis, flairant qu'il y avait là un marché intéressant, se sont lancés dans la création de centres de soins dentaires. Il y a un autre cas dont vous avez peut-être entendu parler, celui des centres Dentexia. Alors Dentexia, c'est quoi ? Dentexia, c'est en fait la première chaîne de centres de soins dentaires qui a été créée à la faveur de la loi Bachelot en 2011-2012. Et c'est intéressant parce que la personne qui a monté ces centres, un certain Pascal Stechen, également ancien diplômé d'une école de commerce, et qui avant avait été actif surtout dans le dans le coaching d'entreprise. Il avait aussi publié un manuel à destination des agents immobiliers. Donc voilà, on voit un petit peu son caractère un peu lâche, on va dire, de son rapport à la question des soins dentaires et du droit universel à des soins dentaires de qualité. C'était peut-être pas tout à fait sa préoccupation. Il a néanmoins créé ses centres de soins dentaires. Il a trouvé des jeunes dentistes à peine sortis de fac, des dentistes étrangers, un certain nombre de dentistes qui étaient donc eux-mêmes, si vous voulez, déjà dans une situation un tout petit peu vulnérable. Et puis il a instauré ce système qui existe toujours, qui s'appelle le système du pilotage par tableau de bord. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il a instauré, c'est un modèle économique qui consiste à soigner très vite et très mal avec du matériel bas de gamme et des prothèses importées, dont c'est trop où, le plus possible de patients, y compris des patients désargentés, des patients souvent pas forcément d'ailleurs si pauvres que ça. Ça peut être juste des gens issus des classes moyennes qui, pour refaire leur bouche, pour refaire leur dentition, n'avaient pas les moyens de payer les 10 000, les 15 000, les 20 000 euros qui étaient demandés dans le système de santé classique, hein, celui des libéraux, qui compose 80% des 42 000 dentistes de France, et qui donc poussent la porte d'un centre de soins dentaires parce qu'on leur promet des tarifs beaucoup plus avantageux. Alors les tarifs sont plus avantageux, mais pas forcément les conditions de soins qui sont mises en pratique. Chez Dentexia, par exemple, quand vous poussiez la porte, tout de suite, il y avait quelqu'un pour vous accueillir. C'était des secrétaires médicales. C'était présenté comme des secrétaires médicales. En réalité, c'était surtout des secrétaires commerciales qui étaient là pour surtout éviter que vous repartiez, que vous ressortiez du centre sans avoir signé. Et on vous promettait monts et merveilles, on vous montrait des photos de sourires parfaits. C'est toujours aussi l'idéal du sourire hollywoodien qu'on vous met sous le nez pour vous faire rêver. Et on vous disait là, si vous n'avez pas les 10 000 euros, c'est pas grave, on va vous faire des conditions favorables. On peut même vous trouver un prêt. On peut vous trouver un prêt bancaire parce qu'on est en relation avec des organismes de crédit qui peuvent vous faire des conditions de prêt tout à fait avantageuses. Et donc, si vous voulez, quand les personnes on arrive souvent à pousser la porte d'un centre comme celui-là, c'est qu'il y a déjà un long parcours dentaire en amont, hein, et que les personnes, en fait, quand elles arrivent là, elles sont souvent déjà dans une situation un peu de détresse. Si bien qu'il est assez difficile de rester vigilant et perspicace par rapport à ce genre de pratique. Je vais vous la faire courte, parce que c'est une très longue histoire d'Antixia. Moi, j'en parle dans le livre, surtout à travers les témoignages de quelques victimes, hein, qui ont mené une lutte héroïque pour essayer d'obtenir justice plus tard. Ce qui s'est passé, c'est que en 2015, Pascal Stechen ayant pompé les bénéfices réalisés dans ses centres, en particulier pour s'acheter un château dans le pays bordelais, a fini par organiser son insolvabilité. C'est-à-dire qu'il était plus... un certain nombre de fournisseurs n'étant plus payés, ne délivraient plus le matériel et en particulier les prothèses et les implants qui étaient évidemment nécessaires aux interventions. Et donc, à partir de là, ça a périclité. Il y a eu ensuite une décision de justice qui a mis en redressement judiciaire les centres d'Antexia. Et vous avez donc à peu près, on estime à environ 3000 patients, à 3000 le nombre de patients qui se sont retrouvés littéralement le bec dans l'eau, ou plutôt le bec en totale souffrance. C'est-à-dire que des plans de soins qui avaient été entamés, avec des dents qui avaient été arrachées, ou des implants qui avaient commencé à être fixés, se sont retrouvés au milieu du gué, lâchés dans la nature. Et alors, ça peut paraître une situation extrême, mais en fait, je me suis rendu compte qu'elle était raccord avec ce que vivaient pas mal de gens qui avaient été traités dans le système libéral plus classique. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un dentier provisoire, par exemple, qui finit assez vite par se casser ou qui vous occasionne des douleurs très fortes, qui fait que vous devez l'enlever en permanence, en réalité, y compris pour les repas. Vous vous retrouvez avec des bouts de ferraille dans la bouche, des implants sur lesquels aucune prothèse n'a été posée. Donc avec des bouches ravagées. Et ces personnes ont essayé par la suite de s'organiser pour obtenir justice. Mais ça, c'est une autre histoire. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler, parce que c'est une lutte sociale assez incroyable, menée dans les pires conditions. Parce qu'il faut savoir que quand, certains d'entre vous le savent peut-être, mais quand vous vous retrouvez avec des dents manquantes, avec des douleurs invraisemblables, c'est les pires abcès, des pulpites aiguës, c'est vraiment les pires douleurs qu'on peut éprouver. Avec Abdel Awacheria, le fondateur du collectif des victimes de Dentexia, on a eu cette expression, c'est-à-dire que c'est la douleur la plus proche de celle, enfin la douleur la plus proche de celle que peut occasionner un acte de torture en temps de paix, quoi, si vous voulez. Et donc ça crée des situations de détresse absolument, absolument incroyables. C'est-à-dire que vous aviez des gens ruinés qui s'étaient littéralement saignés aux quatre veines pour pouvoir payer leur plan de soins dentaires et qui se retrouvaient littéralement édentés. Et c'est là qu'on revient au cas de Sophie Pétronin que j'évoquais au début. C'est-à-dire que vous vous retrouvez face au regard de la société, au regard du premier monde, hein, qui va vous juger et vous jauger à l'état de vos dents. Et c'est extrêmement cruel. Ça peut pousser des gens à... C'est le cas d'un certain nombre de victimes de Dentexia, à ne plus sortir de chez elles, à rester enfermées dans leur chambre. Ça peut pousser des gens à ne littéralement plus ouvrir la bouche, à développer des stratégies, en fait, pour éviter de sourire, parce que le sourire risque de dévoiler vos dents, donc vous ne souriez plus. Vous ne prenez plus le repas avec des collègues, avec des amis, ou même avec des gens de la famille. Et vous êtes ainsi... vous êtes ainsi, en fait, amputé dans vos conditions d'existence et dans votre rapport au monde. Et ça n'a pas que des conséquences sur le plan... médical, sur le plan sanitaire, parce qu'on sait bien que les dents, c'est indispensable tout d'abord pour la mastication, c'est indispensable aussi pour notre tenue générale. Comme dit une des patientes qui m'a parlé dans le cadre de ce livre, on tient debout sur nos pieds, mais on tient aussi sur nos dents. Dès que des dents vous manquent, en fait, c'est un peu toute votre structure osseuse qui se retrouve déséquilibrée. Et en fait, les conséquences sont nombreuses et extrêmement, extrêmement graves. Mais c'est aussi dans votre capacité, en fait, à être un sujet agissant dans la société, que vous êtes diminué, amoindri. Ce qui m'a poussé à développer un peu l'idée, qui est plus intuitive qu'autre chose, que, en fait, le problème de la santé dentaire n'est pas seulement un problème de santé, justement, c'est un problème social extrêmement important, dans la mesure où, en fait, c'est aussi ça use aussi notre énergie, ça use notre capacité à agir. Vous êtes à plat, ça revient très souvent dans les témoignages que j'ai recueillis, cette idée que quand vous n'avez plus de dents ou quand vous êtes abîmé dans votre structure dentaire, vous perdez aussi une bonne partie du jus dont vous avez besoin pour tenir dans un contexte qui, on le sait, nécessite de notre part une capacité assez forte à serrer les dents, justement. Quand vous ne pouvez plus les serrer, le monde devient de plus en plus difficile. Et donc, c'est aussi le corps social lui-même qui est abîmé, en fait, par les conséquences de cette organisation générale des systèmes, cette organisation générale du système de soins dentaires, là, que j'ai essayé de vous résumer en quelques lignes. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que c'est un sujet proprement politique. Alors tout est politique, je sais bien, y compris la chaise sur laquelle je suis assis, tout est politique, mais les dents sont un objet qui l'est tout particulièrement parce que justement les facteurs qui déterminent notre santé dentaire et donc notre capacité à être pleinement des sujets capables de résister, capables de mordre aux besoins, sont conditionnés en fait par cette politique. Et donc le livre que j'ai fait à partir d'un certain nombre de témoignages, et aussi un peu de quelques aperçus historiques sur la question, essaye un peu de réhabiliter la dent en tant qu'objet politique. Alors il ne s'agit pas de décourager qui que ce soit à se brosser les dents et à faire attention, mais surtout il s'agit de s'interroger sur les raisons qui font que on vit en fait dans sous les auspices d'un système aussi brutalement inégalitaire. Et pourquoi la brutalité de ce système ne nous apparaît pas plus clairement? Et donc voilà, c'est une tentative un petit peu d'éclairer, de mettre un peu un coup de projecteur, avec les moyens qui sont les miens, pour essayer de remettre cette question un peu sur le devant de la scène. Parce que, en réalité, cette question est très ancienne. Au XVIIIe siècle, il y avait un moraliste calviniste du nom de Lavater qui écrivait déjà, et ça nous rappelle aussi le cas de Sophie Pétronin, il dit voilà, des gens qui ont des mauvaises dents, c'est des gens de mauvaise vie, il ne faut pas les fréquenter. À l'inverse, dit-il, les dents blanches, propres et bien arrangées, qui au moment où la bouche s'ouvre paraissent s'avancer sans déborder et qui ne se montrent pas toujours entièrement à découvert, annoncent décidément dans l'homme fait un esprit doux et poli, un cœur bon et honnête. C'est-à-dire que les dents blanches sont évidemment valorisées, survalorisées. Il y a toute une industrie aujourd'hui qui prend cette injonction en charge. Voilà, on peut aussi en parler si ça vous intéresse. Et je finirai par une remarque faite par Don Quichotte dans le fameux roman de Cervantes, hein, donc qui remonte quand même à plus de 400 ans. Ça a été écrit au début du XVIIe siècle. Et Don Quichotte, à un moment donné, explique à Sancho Panza « Car il faut que tu saches, Sancho, qu'une bouche sans dents est comme un moulin sans meule et qu'on doit mille fois plus estimer une dent qu'un diamant ».